Amis de la Communique, bonjour, je suis ravi avec Thierry Rossi ici présent.
Bonjour à tous pour cette première outside.
Outside.
Il fait beau, il fait chaud.
Nous avons fait la Communique sur le zinc, nous avons fait la Communique en studio et maintenant c'est la Communique sur le trottoir. Et où est-ce que nous allons aujourd'hui Thierry?
Alors nous allons découvrir des richesses, des trésors cachés dans une cave.
On est près de l'Orangerie, au quartier des 15. On ne dévoilera pas évidemment l'adresse précise.
Et mais on va découvrir ensemble, on va peut-être sonner.
Alors je ne sais pas où est la sonnette.
Elle est là.
Alors, on va dire que la sonnette a été sonnée. Et nous allons rentrer. Rentrons Thierry. Nous rentrons dans un domaine assez incroyable. C'est une maison, c'est un particulier, beaucoup de feuilles, des feuillages. Et c'est le propriétaire qui nous accueille. Bonjour Nathan Grandjean.
Bonjour.
Bonjour Nathan. Bonjour.
On est très heureux d'être reçu chez vous aujourd'hui. Oui. Où est-ce qu'on est là exactement?
Eh ben, on est dans le quartier du Conseil des 15. Je vais vous emmener dans mon jardin qui va nous permettre d'accéder à la cave. On va découvrir des petites choses sympas.
Des petites choses sympas. C'est une émission gustative et culinaire que nous allons faire. Évidemment, passée sous le signe du cachère avec Nathan Grandjean, Thierry Rose pour la Communique. Une version un peu particulière. C'est l'heure de l'apéritif. Et nous allons eh bien, tout savoir des vins et des fromages cachères qui sont produits par Nathan Grandjean. Et on va découvrir cet endroit. Où est-ce qu'on va, Nathan, là?
Alors, je vous emmène dans ma cave. Il y a deux salles. On va rentrer dans la première.
Première salle, donc c'est une cave, un jardin, tout comme il pourrait y en avoir beaucoup. La sombritude nous amène, et ça y est, on sent déjà le son qui s'étouffe un petit peu. La porte en bois qui s'ouvre. Et voici, nous voilà au sein du Cénacle, au moment que tout le monde pourrait attendre. Magnifique endroit, une cave où l'on retrouve de superbes flacons que l'on va pouvoir découvrir.
On va choisir un qui va coller avec la suite du programme.
Ah ben ça c'est très bien. Alors, d'abord, là on est actuellement dans la cave, Thierry Rose, Nathan Grandjean. Nathan Grandjean, on a une question très, très classique ici avec nous à la Communique. Et on va commencer, on va vous la poser dans cette cave. Merci. Qui êtes-vous et d'où venez-vous?
On va s'asseoir peut-être parce que c'est un peu long.
On va s'asseoir un petit peu long. C'est si long que ça?
Je ne sais pas. Non, une question difficile. Là, on se retrouve parce que depuis quelques années, je me suis réorienté professionnellement vers ce qui était en fait ma passion. Le vin d'abord et puis depuis peu le fromage. Puisque j'avais un vieux rêve de faire du Munster cachère depuis 10 ans sans jamais y arriver pour différents.
Sans vers de terre.
Le problème c'est qu'il y avait beaucoup d'obstacles qui faisaient que c'était pas faisable jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et puis sur le fromage, depuis peu, un obstacle majeur s'est levé. Bon, je pense qu'on va en parler.
Bien sûr. Quel est votre parcours à l'origine? Qu'est-ce que vous avez fait comme premier métier? Où est-ce que vous avez vécu? Où est-ce que vous êtes né? Où vous avez fait vos études avant d'arriver à tout ça?
Voilà, on va pas tout reprendre, mais donc je suis arrivé à Strasbourg en 84, donc j'avais 6-7 ans. J'ai grandi à Strasbourg et j'ai fait des études de physique-chimie parallèlement à mes études à la Yeshiva. Et j'ai commencé l'enseignement quand monsieur Vivas était directeur de l'école, donc en 2002, 2003 peut-être, un truc comme ça.
Ça ne nous rajeunit pas tout ça, Thierry.
Oui, vous êtes passé de la chimie à l'alchimie.
Voilà, bah, je suis passé à la chimie pratique, on va dire. Et j'ai enseigné pendant 6 ans. Après, j'en ai eu marre pour différentes raisons liées à l'école qui était dans la tempête et j'y trouvais pas ma place. Moi, pour des raisons personnelles, ça me convenait plus. Et donc, j'ai commencé à travailler pour Buchinger, Espace Cachère, pendant une dizaine d'années. À Colmar, Mulhouse, j'étais responsable de point de vente là-bas. Et puis j'en ai eu marre au bout d'un moment, j'ai voulu travailler pour moi et donc me concentrer sur le vin, ce qui a été d'abord ma première boîte que j'ai montée, donc Yavin, qui est un site de vente en ligne, qui fait aussi du conseil, de la formation, et depuis 2017 de la production.
Précisons que c'est évidemment de la production, de la vente et du conseil pour des vins cacheurs.
Tout à fait, exclusivement.
On pourrait se poser la question finalement, est-ce qu'il y a le marché, a priori, on pourrait se demander s'il a, mais en fait il existe.
Ah, il est en très forte croissance. De plus en plus de jeunes s'intéressent au vin de manière qualitative et veulent découvrir, se satisfont plus du
tout venant.
Ouais, du vin très bas de gamme qu'on a connu quand j'étais petit.
Il est très jeune puisque Noah est venu nous rejoindre. Ouais.
C'est le coffee, ça.
Voilà. Tu bois pas encore, toi.
Quel âge tu as ?
Si, je bois, j'ai 12 ans.
12 ans, on commence déjà. Papa, il t'éduque déjà au vin ?
Ouais.
Et tu aimes ça ?
Ouais.
Je sais pas si on va passer ça à la radio, mais en tout cas, on y est.
Il n'est pas dormi de soir.
Et... Non, mais disons c'est vrai que j'ai un petit jeu qui s'appelle le nez du vin, qui permet, et c'est marrant, comme à cet âge-là, ils apprennent très vite à retrouver les odeurs, à reconnaître les odeurs, et c'est vrai que c'est sympa de voir ça sur les enfants.
Donc et vous avez. Donc on attendra Noah tout à l'heure sur ça. Sa passion. Noah. Donc, vous avez commencé à vous intéresser particulièrement au vin, à vous y éduquer en quelque sorte. Vous disiez que le marché est en forte croissance, Nathan Grandjean.
Ouais, je suis actif sur Facebook. J'ai deux gros groupes francophones, anglophones. On a, dans le seul groupe anglophone, on a 6000 membres d'amateurs de vin cachers et 2600 dans le groupe francophone. Donc, sur lequel il y a tous les professionnels du vin cachers, aussi bien mondial que français, et beaucoup, beaucoup d'amateurs. Et depuis le temps, les gens apprennent, veulent connaître, veulent comprendre et ont clairement une volonté de arrêter de boire n'importe quoi.
Alors, comment devient-on, on va dire, soit vigneron, soit œnologue, je ne sais pas quel est le terme qui correspond, ou caviste, sans faire une école d'œnologie? Et malheureusement, il n'y en a pas de cachère, peut-être en Israël. Deuxième question, comment est-ce qu'on forme son palais? Comment est-ce qu'on forme son goût sans pouvoir comparer avec une gamme élargie de vins, puisque la gamme de grands vins est quand même assez étroite, et pouvoir faire un classement, on va dire, un peu comme est-ce qu'on pourrait imaginer le parquet caché?
Alors, c'est une bonne question. Alors, les questions les unes après les autres, on va essayer de... Alors, d'abord, tout d'abord, pour moi, en tant que juif ashkénaze pratiquant, je ne bois pas de vin non cachère, mais par contre, je goûte les vins non cachères.
Ah, on peut les goûter sans les absorber.
Tout à fait.
Voilà, qui est une chose intéressante.
Donc, évidemment que moi, je ne pense pas qu'on puisse comprendre bien le vin sans connaître le vin non cachère. Ce n'est pas possible. C'est la contradiction en état. On n'a pas suffisamment de largesse de spectre de dégustation.
On va se diriger vers votre jardin.
Alors, on va aller prendre le fromage, peut-être.
C'est dans une vraie cave, hein, donc on va en même temps chercher le fromage au passage. On va revenir évidemment sur cette notion de goût, d'éducation, de formation avec Nathan Grandjean, notre spécialiste du vin cachère. Et il n'y a pas de bon vin sans bon fromage, c'est pour ça que nous allons là dans la cave d'affinage du fromage, qui nous réserve encore des surprises. Avec un Saint-Nectaire.
Actuellement deux fromages, mais je vais vous en ouvrir un seul. Donc là, du Saint-Nectaire, fermier au lait cru, et du Salers. Mais celui-là, il est au lait cru. C'est le principe, ouais.
Quasiment ce sont des trésors.
Ah ouais, c'est des petits trésors.
Alors, on continue notre visite. Le fromage, donc pas de bon vin sans bon fromage également. C'est presque la tradition gastronomique française, mais aussi en cachère. Et on va découvrir et comprendre tout cet art. Avec Nathan Grandjean, imaginez, nous sommes sur sa terrasse, au milieu de ses caves, et on va profiter de ce moment juste incroyable. C'est un peu un moment hors du temps qu'on est en train de s'offrir et de vous offrir. Et on continue avec Nathan Grandjean, qui nous expliquait qu'il n'y avait pas de possibilité pour vous de déguster ou de comprendre les vins sans goûter l'ensemble des vins, donc même les vins non cachers.
Pour savoir ce que je fais produire et la qualité de ce que je fais produire chez mon vigneron, il faut évidemment que je sache comparer au non cacher, voir si on est dans les clous, si je me fais pas avoir, si j'ai bien la qualité escomptée.
Sachant qu'on n'avale pas.
Tout à fait, mais de toute façon, aucun professionnel du vin navale de toute façon. Il manque rien à part l'alcoolémie. Quand on recrache ou quand on avale le vin, il n'y a aucune différence au niveau gustatif. Et la seule différence, elle est au niveau alcoolémique, mais aucun professionnel navale, justement.
Alariquement, il n'y a pas de contre-indication.
C'est une marloquette sfarad ashkenaz, justement. Les sfaradim n'autorisent pas, les ashkenazim autorisent. Aujourd'hui, on a tendance à autoriser, faut évidemment demander un avis rabbinique, mais à titre professionnel, en général, on autorise quelqu'un qui est ashkenaz à goûter.
D'accord. Marloquette, expliquez-nous ce que c'est qu'une marloquette.
Alors, c'est pas une marque locale, hein, déjà, ça c'est.
Je vais vous couper le fameux Saint-Nectaire en même temps. Donc,
on fait deux choses en même temps ici. On coupe le Saint-Nectaire avec un couteau lait, évidemment.
Voilà. Et donc, selon les... Il y a une divergence d'opinion, en fait, sur les avis séfarades. On peut... Le vin non cachère, donc qu'on va appeler de Stam Yenam, c'est-à-dire pas du vin interdit de Horaïta, c'est un interdit rabbinique lié aux spécificités du vin. Donc s'il est non cachère, il est interdit évidemment à la consommation, on ne peut pas le boire. Il y a divergence d'opinion sur est-ce qu'on peut en tirer profit. Donc le boire, c'est sûr que c'est interdit, mais si jamais, mais par exemple, le goûter ou le vendre, etc., ça s'appelle en tirer un profit. Et donc ça, il y a des avis qui permettent, des avis qui interdisent. Et donc voilà.
Il y a une sorte de, comment dire, de possibilité une petite nuance qui se permet en fonction de l'interprétation et surtout de la finalité.
Tout à fait, voilà. Et donc à titre professionnel, il est d'usage d'autoriser. Je pense que... Enfin, ça me semble pas très raisonnable de prétendre s'y connaître en vin sans avoir la culture du non cachère aujourd'hui, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que la culture cachère.
Et encore moins, bien sûr, le produire et le vendre pour en prodiguer des conseils. On n'a pas parlé de la Hagara, c'est Beddin de Strasbourg.
Non. En fait, moi, sur le vin, je travaille avec un associé américain. En fait, c'est des grands vins que je fais, des Côtes Rôties, Condrieu, des grandes appellations de la vallée du Rhône.
Ce qu'on a vu dans la cave il y a quelques minutes.
Je vends un peu de tout. Mais ce que je fais produire, c'est des grands vins de la vallée du Rhône, donc j'ai du Châteauneuf du Pape, un grand Châteauneuf de grande cave, quoi, qui est encore en cuve, quoi, en élevage. Et pour la majeure partie de ce que je produis part à destination du marché new-yorkais, donc ils avaient besoin du top de la cache-route. Donc on travaille avec une certification plus connue sur le marché américain, donc en l'occurrence avec Rav Rotenberg.
Rav Rotenberg pour le marché américain. Tout ça, c'est OU également, c'est Orthodox Union.
Tout à fait. OU qui valide en fait le travail fait par Rav Rotenberg, donc qui appose son OU. C'est avec Rav Rotenberg que je travaille sur le terrain, quoi.
Alors, Monsieur Grandjean, on parle depuis un petit moment de vin cachère, de fromage cachère. Qu'est-ce qui fait que ces vins sont cachères et pourquoi ne le seraient-ils pas? Puisque c'est du raisin, c'est du lait. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos amis profane, on va dire, en la matière?
C'est vrai que c'est une question, Thierry, qui revient régulièrement. Pourquoi c'est cachère? Pourquoi c'est pas cachère? Qu'est-ce qui fait que le vin devient cachère ou non cachère dans sa surveillance, dans son processus de vinification, dans son élevage? Ce sont des questions, évidemment, qui nous intéressent tous. Et pendant ce temps, et pour y répondre surtout, eh bien, Nathan Grandjean est en train de dévisser sa bouteille. Expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire.
Je décapsule, puis je débouchonne pour pouvoir goûter.
Qui peut décapsuler une bouteille, déboucher une bouteille comme ça? Qui? Dans la religion.
Alors, quelqu'un qui est pratiquant, qui observe le Shabbat, il peut le faire. Alors, on va reprendre la question d'avant, peut-être, pour commencer. C'est que, en fait, donc, contrairement à... Le sens du mot kasher peut avoir plusieurs sens dans la tradition. Ça peut être qu'il y a des choses qui sont non kasher parce qu'il y a des liées à des interdits bibliques ou rabbiniques, peu importe, qui rendent des aliments non consommables. De par leur nature. De par leur nature. En l'occurrence, pour le vin, il n'y a pas d'interdit en tant que tel de par la nature du produit. Ce sera le même, ce qui veut dire qu'en fait, ce sera exactement le même produit en cachère et en non cachère. Il n'y a pas de différence de nature ou d'ingrédient. Voilà. On est équipé pour en parler. Il n'y a pas de différence de nature.
On vient d'ouvrir une bouteille de Côte Galilée Village, une appellation Galilée, Maison Jacques
Capsuto.
Capsuto.
2016.
Voilà.
On sortit le Chaïm. À déguster avec le 5 terres.
Voilà.
Alors.
À déguster avec du Saint-Nectaire, effectivement.
Nathan.
Alors, pour reprendre.
D'abord, un repas sur le cachet, après, on parlera du vin en lui-même.
C'est un sujet qui est passionnant, on a envie de tout parler en même temps. Donc, structurons-nous pour nos auditeurs, pensons à eux.
Donc, pour conclure sur le vin cachet, donc le vin cachet, c'est pas une différence d'ingrédients, mais c'est juste la manipulation qui doit être faite par quelqu'un d'assermenté, de reconnu par, comme pratiquant par l'organisme certificateur.
C'est une marque de confiance. Voilà, une marque de confiance, et non pas une.
Qui est donc, en fait, va être produit selon les règles de la cave, sur les instructions de la cave, du maître de chai. Et simplement, on est les petites mains de la cave, en fait. Toutes les manipulations à partir de la vendange jusqu'à l'embouteillage seront faites par quelqu'un d'assermenté. On va voir que pour le fromage, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, donc voilà, pour ce qui est pour la cacheroute du vin.
C'est évidemment, alors ça c'est les informations, donc il y a un suivi, j'entends le suivi de l'ensemble de la chaîne par quelqu'un d'assermenté, c'est une sorte de check, de vérification, en fait une chmira quoi, une surveillance.
Non, c'est lui qui fait les manipulations.
C'est lui qui fait les manipulations, voilà. Il les fait concrètement.
C'est lui qui touche, le vin doit être manipulé par personne de non pratiquant. Dès la fin des vendanges, quoi. Dès qu'on a du jus, on a jusqu'à l'embouteillage, toutes les manipulations sont faites par quelqu'un d'assermenté. Ce qui fait qu'il y a des surcoûts non négligeables liés à la production de vin. C'est que tout, on doit avoir quelqu'un, donc sur du grand vin où il y a beaucoup de travail, en cave, on a quelqu'un en permanence sur place qui est pratiquant et qui obéit, qui fait ce que normalement le personnel de cave ferait.
Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite dégustation, une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Nous voilà de retour en studio extérieur avec Nathan Grandjean, production de Saint-Nectaire Fermier, de vin blanc, vin rouge de qualité cachère, bien évidemment. Retour sur la formation, Nathan Grandjean, on expliquait tout à l'heure finalement comment est-ce qu'on fait pour se former, comment est-ce que l'on fait pour s'agrémenter ou s'agréer de la qualité et surtout du savoir-faire.
Alors, déjà pour être un amateur, tant soit peu éclairé, il n'y a pas de secret, il faut goûter. Il faut goûter un maximum et pouvoir comparer, etc. Ce qui est difficile parce que dans le cachère, par exemple, il y a très peu de salons, par exemple, où on peut comparer beaucoup de vins. Il faut dire ce qui est, il y a très peu de vendeurs qui s'y connaissent. 90% du vin en France est vendu par des épiciers qui vendent du vin, comme ils vendent... qui vendent des codes barres en fait, qui vendent du vin comme ils vendent du poisson.
Des références quoi.
Voilà. Et donc qui n'y connaissent rien du tout, en fait, tout simplement. Et donc c'est pas sur eux qu'on peut compter pour éduquer la clientèle, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs en Israël, en Angleterre ou aux États-Unis, où on a vraiment des cavistes qui existent et qui sont plus ou moins compétents.
C'est surprenant quand même parce que France, pays du fromage et du vin, pays de la gastronomie, de la connaissance et de la compétence gastronomique, on n'a pas cette éducation. C'est surprenant tout de même.
Mais c'est un peu mon combat dans le sens où, ayant vu et découvert ça aux États-Unis, en Angleterre, en Israël, je me suis dit, mais c'est quand même hallucinant qu'en France, on n'ait pas du tout de personnel qualifié qui puisse éduquer, former, conseiller correctement les gens. Et donc c'est pour ça que j'ai créé Yavin il y a quelques temps, pour justement éduquer, pour apprendre aux gens, transmettre un peu ma passion et leur apprendre. Alors, il se trouve que de plus en plus, il y a des petits salons qui se font à Paris, principalement, où justement les gens peuvent comparer, goûter pas mal de choses et rencontrer des gens qui s'y connaissent pas mal. Moi, j'organise moi-même des dégustations pédagogiques depuis maintenant 5-6 ans. Au début avec un ami sommelier qui est prof à l'école hôtelière ici. Depuis, je fais ça tout seul. Je me suis suffisamment formé. J'ai été formé par l'école des vins et spiritueux, anciennement l'école des vins de France à Paris, donc qui est l'école de dégustation la plus prestigieuse depuis 40 ans, qui a une annexe à Singapour, enfin, qui est mondialement reconnue, et avec qui, depuis très peu, j'ai mis en place pour la première session, ce sera le 1er mars, une formation dédiée aux vins cachers de niveau 1. Ce qu'ils font comme la même prestation qu'ils font en non cachère, pour l'instant que niveau 1, sachant qu'il y a 4 niveaux, hein, et enfin, dans le cadre de l'école 3, le quatrième c'est à Londres, c'est des diplômes internationaux certifiants avec un petit examen après, et on a mis en place le premier niveau gâteaux en vin exclusivement cachère, donc avec lequel, en partenariat, Yavin et l'EES, l'école des vins de France, à Bercy Village. Et donc voilà, on a rempli en 2 semaines, ils m'ont dit qu'ils ne sont jamais remplis aussi vite la formation.
Incroyable, c'est quand même, c'est que ça répond vraiment à un marché, un besoin, une demande.
Il y a des jeunes qui sont vraiment demandeurs, qui ont envie de justement, ce qui, on va dire... L'immense majorité, si on fait un peu de sociologie des juifs de France, il y a quand même beaucoup de... Il y a soit les juifs ashkénazes qui soit sont très pratiquants et ne s'intéressent pas tellement au vin, soit ils ne sont pas très pratiquants et ils ne se gênent pas pour prendre du vin non cachère. Pour ce qui est des juifs d'origine maghrébine, les juifs séfarades, eux sont plus pratiquants, donc prennent du vin cachère. Donc depuis les années 80, il y a du vin cachère. Sauf que ce n'était pas tellement dans leur culture. Donc il n'y avait pas d'attente particulière. Maintenant, après 2-3 générations, les jeunes ne se retrouvent plus dans ce genre de culture. Ils sont, on va dire, même si on peut être très pratiquant et envie de connaître le vin et d'aimer le vin et de savoir le... Donc il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent justement à du vin de qualité, à différencier, diversifier.
J'allais dire, Nathan Grandjean, il y a une sorte d'assimilation, parce que c'est vrai que la culture gastronomique dans le monde non-juif est extrêmement développée. Les accords mets-vin sont très rigoureux, très réglementés, très codifiés et surtout très attendus par les amateurs et les gastronomes. Et comme vous le disiez, l'évolution sociologique de nos compatriotes, de nos coreligionnaires, va vers aussi plutôt, on pourrait l'appeler une tendance, une envie de qualité, une envie de diversification, ce qui n'empêche qu'on peut apprécier tout en restant et en respectant évidemment ses valeurs et sa culture.
Tout à fait, ça c'est un vrai virage qui est pris depuis quelques années, je pense, je pense, s'arrêtera pas là. Hein, donc moi c'est ma passion, la bonne bouffe et le bon vin. Donc effectivement, j'en profite, j'essaye de d'y trouver ma place. C'est pour ça que j'ai mis en place depuis peu des prestations de chef à domicile avec probablement le meilleur chef cachère du monde qui va régulièrement à New York chez les très riches New-Yorkais pour leur faire juste un repas d'un soir. Et qui est un ami qui habite à Paris en fait et qui a travaillé dans des grands restos, qui a fait le cordon bleu et qui maintenant ne veut plus travailler avec les contraintes d'un restaurant et donc avec qui on fait des prestations en chef à domicile en accord mets vins si les gens veulent. Et
comment est-ce qu'on connecte ça, où est-ce qu'on retrouve les informations sur votre site internet?
Tout à fait, sur le site internet yavin.fr, rubrique gastronome. Voilà, on peut réserver, mais c'est pas évident encore parce que il y a quand même pas mal de contraintes. Enfin, un petit groupe de 8-12 personnes qui sont prêts à mettre un prix, mais donc
qu'est-ce que ça coûte justement, qu'est-ce qu'il faut compter? J'ai pas envie de dire au minimum pour une bonne prestation, pour que tout le monde soit bien, entre 8 et 12 personnes, c'est un prix par personne de combien?
Alors, on propose 3 types de menus, un menu à 100€, un menu à 140 et à 180. Mais on est sur du niveau quasi étoilé, hein, soyons clairs, ça veut dire que c'est du travail uniquement sur assiette. C'est jusqu'à 7-8 plats du début à la fin, quoi. On peut avoir 6-7-8 assiettes, toutes extrêmement travaillées, avec le chef qui est un ami qui est vénézuélien, qui a un accent fantastique et qui adore raconter ce qu'il y a dans l'assiette et expliquer. Et donc, pour moi, ça peut coûter jusqu'à 2 fois le prix d'un resto à Paris, d'un bon resto, mais l'expérience n'a rien à voir.
C'est intéressant ce que vous dites, c'est une expérience que vous proposez, c'est pas un restaurant, c'est à la maison, c'est totalement différent, c'est une exclusivité.
Voilà, on voit le chef cuisiner, il vous montre ses trucs, et c'est un génie de la cuisine. Donc voilà, d'un poivron, il vous fait 3 plats, il récupère la moindre morceau de peau, il en fait un geste culinaire, gastronomique dans la assiette, et il vous explique pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il a fait ici, c'est quoi cette sensation un peu folle. Bon, on découvre des sensations qu'on ne retrouve pas classiquement dans les restaurants.
C'est une chouchouka à visiter, quoi.
Non, je... Voilà. Non, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, en France particulièrement, mais c'est vrai presque dans le monde, en Israël, c'est un peu moins le cas, mais il y a très peu de restaurants où il y a du travail en cuisine. Aujourd'hui, les gens sont très peu demandeurs, ils ont toujours peur de... Enfin, l'image des gens archi classique, hein. Attends, moi je veux en avoir plein mon assiette, je veux une grosse assiette, une petite assiette avec 3 machins dessus, c'est quoi, c'est du foutage de...
En fait c'est des Alsaciens quoi, les juifs.
voilà, une grosse choucroute, une grosse daf. Non mais voilà, et donc c'est pour le coup moins que, je pense qu'il y a moins de demandes là-dessus que sur le vin ou sur le fromage, effectivement, mais je pense que de plus en plus il y a de gens, et puis je pense franchement c'est une expérience, moi c'est la première fois que j'ai vu faire ça, un chef qui cuisine à domicile, qui t'explique ce qu'il fait et qui te montre la richesse qu'il y a dans une, qu'il peut y avoir dans une assiette, le travail, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît dans les restaurants cachés.
Nathan Grandjean, qui nous fait découvrir l'ensemble de sa production, de ses idées, de son marché, qui est absolument incroyable, tant sur les vins que sur les fromages, que sur les prestations de chef à domicile. Le top 3 des vins que vous nous conseillez pour Shabbat, s'il y avait 3 références avec lesquelles vous deviez partir sur votre synagogue déserte, au milieu de votre île déserte, après avoir fait vos 3 synagogues.
Ah, c'est compliqué comme question, hein. Il y a vraiment...
Ça dépend ce qu'on mange, évidemment, mais voilà, le petit favori.
Non, mais c'est très compliqué parce qu'il y a des échelles de prix...
On s'en fiche du prix, là c'est la fête, c'est celle... Alors, j'ai le formulé différemment, la bouteille à ouvrir en amoureux, la bouteille qu'on offre pour la famille, pour les Shabbats, et puis la bouteille qu'on n'ouvrira jamais.
Alors, la bouteille qu'on n'ouvrira jamais, mais c'est des bouteilles qui sont désormais difficiles à trouver, mais c'est des grands Bordeaux, grands crus classés des années 2003-2005, qui sont les meilleurs millésimes qui ont été faits et sur lesquels il y a des formidables bouteilles cachères qui ont été produites. Ça peut être un Léoville Poitferré, mon préféré, ce serait un Pontet Canet, qui malheureusement ne fait plus du cachère du tout depuis. Mais bon, Pontet Canet 2005 ou 2003. Il n'y a pas mieux en Bordeaux. Et sinon, pour en amoureux qui plaît à tout le monde et un vin de dessert, je dirais sur la Tour Blanche, un Sauterne, la Tour Blanche 2014, qui est à mon sens le meilleur Sauterne qui a jamais été fait en cachère, qui est pas donné certes, mais qui tiendra 30-40 ans facilement et d'ores et déjà une baffe dans le palais, un coup de poing dans la figure et qui est vraiment un très très grand vin liquoreux, donc vraiment tout public. Et on va parler d'un blanc sec, un peu avec un choix un peu subjectif, on va dire un Condrieu fait par Nathan Grandjean dans la cave des vins de Vienne, le Condrieu 2017. Pour moi, c'était une découverte. Je connaissais pas du tout ce genre de grand vin et ça ressemble à rien de ce qui existe actuellement en cachère en vin blanc. C'est d'une richesse aromatique fantastique.
Nathan Grandjean, on va continuer notre émission. On en a déjà plein le palais. Il y a Noam qui est avec nous, c'est votre fils. Et Noam, il hume déjà, on sent déjà les odeurs, le palais et le nez qui se développent. Qu'est-ce que tu faisais, Noam?
Alors, je remuais le vin pour faire sortir pour que les odeurs soient plus fortes du vin, pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais j'ai pas réussi.
Pas encore. Ça ne saurait tarder. Alors là, on est là actuellement en extérieur. On va parler bien sûr du Saint-Nectaire, ce Saint-Nectaire fermier qui est juste incroyable. C'est aussi une production particulière. Mais ce que je vous propose pour cela, c'est qu'on se retrouve avec peut-être un ou deux invités surprises d'ici quelques minutes.
Moi, je trouve que ce serait intéressant, justement, que, si tu es OK, Nathan, qu'on redéfinisse. Alors, il y a des termes. Tu appelles ça très joliment le délégué, mais il y a un terme en hébreu qui s'appelle le chômer, celui qui surveille, qui vient de la shmira, qui est la surveillance du produit. Redonner le gardien. Ouais, c'est un peu le gardien du temple.
C'est le gardien de la tradition.
C'est le gardien de la tradition, exactement.
Qui surveille que tout, qui garantit, en fait, par sa présence, que tout est fait dans le respect
Et redéfinir aussi qu'est-ce que c'est cachère, qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être c'est intéressant de l'étymologie, de le comprendre.
Voilà. Cachère, ça veut dire apte. Apte à être mangé par un public.
Averti.
Oui, non, mais.
Pratiquant. Donc, encore une fois, ça peut avoir deux sens. Ça peut dire, des fois, ça peut être juste tout simplement qu'il faut que les ingrédients présents dans un truc soient cachères, mais il peut des fois y avoir d'autres. Au-delà de l'ingrédient en tant que tel, il peut y avoir des impératifs, par exemple, voilà, le fait que les manipulations soient faites par quelqu'un dans le vin, que l'enfermentage, comme on dit, l'empressurage soit fait par lui, les pastilles posées qui vont permettre la traçabilité, pareil, par lui, même si on ne les voit plus après les pastilles, de toute façon, dans le sanitaire, on la retrouve pas. Mais c'est un peu formel, mais ça nous permet de dire, oui, ce lot-là, le lot cachère, on l'a marqué tel quel. Même si le fromager, de toute façon, il sait quel est son lot, ils sont marqués dans son... Mais pour nous, il nous faut une marque par fromage.
Alors, après que vous ayez posé la pastille, bon, il est validé. Mais là, on rajoute encore quelque chose sur certains fromages. Et là, comment vous faites ?
Alors, il faut
sur
que...
Sur l'extérieur de la croûte.
Voilà. Alors,
ça, c'est la suite du sujet.
Alors, ça dépend. Il faut que je comprenne. Moi,
Par exemple, sur un osso irati, ouais. Il est tout blanc. On dirait un gros babybel, en fait. Voilà, vous avez posé votre pastille. Ah, mais ça ne s'arrête pas là.
Il a mangé.
Si on le laissait comme ça, bah, il serait tout noir. Alors,
moi, hein, il m'a dit, moi, j'y vais lundi. Mardi matin.
Et là, on rajoute quelque chose, justement, pour que cette croûte un petit peu jaune peint puisse apparaître. Et ça se fait pas immédiatement, mais c'est pas qu'avec de l'eau et du sel. Souvent, tu repiques sur le fromage précédent. Alors, et là, comment vous gérez ça? Alors,
lui m'a dit que... Voilà, lui m'a dit... Ça, pour l'instant, j'ai pas de solution. Les fromages où j'ai besoin de repiquer des semences des productions précédentes, j'ai pas de solution.
Pour ça, je vous demandais aussi
l'histoire
des
planches. Et ça, c'est moi, je viens vous poser la question.
Parce que les planches et l'emmorgement, t'as besoin des deux accessoires. Parce que la planche en semence... continue l'ensemencement, plus il y a l'histoire de l'hygrométrie, et il y a cette flore, ce biofilm qui s'est installé sur la planche, et là comment vous le gérez aussi, parce que je vois chez nous, nos planches ne sont pas lavées aux bactéricides, fongicides,
non.
C'est lavé à l'eau chaude, séché au soleil, et par contre des fois il y a des planches, on ne fait que les brosser, parce qu'on en a besoin pour le lot suivant.
C'est un cas limite, il faudrait que je demande au rabbin qui va définir les limites de
au début, au seau, ils vont commencer à nettoyer à l'eau salée.
Moi, il m'a dit qu'il n'utilisait que de l'eau salée.
Voilà, et il va frotter. Bon, il faut savoir, faut vraiment lui demander si, après le premier brossage, parce que tu as les brosses et les linges qui te servent. Si ils sont trempés, à la fin, bah finalement, t'as une eau qui devient un peu trouble, qui récupère les ferments du lait. Il y a plein de choses dedans, c'est très riche. C'est une vraie petite bombe microbiologique, quoi. C'est la vie. La vie, elle est dans l'eau. Elle est sur le fromage et dans l'eau. Savoir si, à partir du moment où on est parti à blanc, c'est-à-dire qu'ils ont jamais été, ils sont là, l'eau est transparente, salée, et je commence à laver tes fromages, et je garde cette solution, si à la fin de mon process, je peux garder cette solution pour le jour d'après.
Bien sûr.
À partir de là, elle reste cachère.
Ouais, ouais. Ce qu'on fera dans ces cas-là, si c'est... je vais... Parce que ça pose aucun problème. Si elle n'est utilisée que pour mes fromages, ça pose aucun problème. Simplement, ce qu'on fera, c'est qu'on la mettra en bouteille, on fermera, on mettra un petit scotch pour dire, voilà, il est genre scellé, comme ça. Je peux garantir que c'est effectivement...
J'ai une petite turpitude concernant le lait cru.
Ouais.
On parle du marché américain, on parle de... Est-ce que... Alors là, c'est le néophyte qui va parler, vraiment, une question qui va peut-être vous paraître ou ridicule, ou finalement, vous avez déjà répondu.
Sûrement
pas. Allez, pas.
Mais le lait cru est obligatoire dans la cachérisation?
Pas du tout.
Voilà, un grand...
Voilà. Un grand...
Non.
Parce qu'aujourd'hui...
Moi, le lait cru, c'est juste, pour moi, un moyen de me démarquer et de me préserver de la concurrence des industriels.
On peut aller... Finalement,
je sais qu'ils sont capables de me suivre sur le terrain du fermier.
Tu as besoin de fromage signature.
Voilà, de grands fromages.
C'est exactement ça.
Moi, c'est juste... Le lait cru, pour moi, c'est juste le moyen de poser une barrière avec les industriels. Je sais qu'ils me courent derrière, les mecs. Ça fait 20 ans que
je vais te donner un petit peu... Nous, on achète des cuves.
Ouais.
Qu'on fait personnaliser.
Ouais.
Donc... Savoir que, finalement, j'ai compris un peu la chaîne. Maintenant, je pense qu'on peut peut-être, à un moment ou à un autre, organiser une rencontre avec les gens qui nous font les cuves. T'avoir sur un type de produit, qui est produit de qualité, produit que tu vas pouvoir envoyer aux States, parce que tu n'auras pas le problème de la contrainte du lait cru, et produits qui vont te donner peut-être aussi un peu des épaules, quoi, toi,
Tu labellisé, quoi.
Et parce que depuis le début de la conversation, on parlait de lait cru, et je me suis dit, tiens, finalement, c'est peut-être un point obligatoire dans le cahier des charges, le point de départ.
Non,
quoi.
Non, pas du tout. C'est vraiment. Ça, c'est plus business qu'autre chose.
Tu sais.
C'est pour sortir du lot, me placer sur un terrain où je sais que personne ne peut me rattraper et qui les gens comprennent tout de suite que c'est différent, en fait.
Parce que j'ai des souvenirs d'adolescence où je travaillais dans un abattoir de volailles. Où on faisait de l'abattage cachère.
Mmh.
Je me rappelle des rides, des choses, et des... que les rabbins venaient, le petit couteau en or, c'était le, ils saignaient. Mais... Non, non, mais attends, ouais. C'était vraiment tout un principe. Et j'étais épaté parce que ils s'occupaient de chaque bête. Hein, c'était ouais. Et c'était toujours fait en fin de semaine, c'est-à-dire en fin de chaîne. Mm-hmm. On était encore aussi à l'époque sur des abattoirs de taille raisonnable. Et je disais, voilà, il y a tout un rite, il y a tout un choix, parce qu'ils avaient aussi choisi, les bêtes étaient choisies avant, il y avait encore tout un rite de nourrissage, il y avait tout un tas de choses qui étaient, donc c'est pour ça que le lait cru, je pensais qu'au début, c'était un fait obligatoire.
Voilà. Alors, puisqu'on parle de viande.
Je parle en tant que néophyte total.
Moi, j'aime beaucoup cette idée de Cyril, de Chris et Laure, c'est des fromages signature. Je pense que c'est, en fait, des exclusivités.
Voilà.
Qu'on ne retrouvera pas ailleurs, qui sont de qualité.
Voilà, tout à fait. Parce que les gens ne connaissent pas. Mm-hmm. Donc, en me cachant derrière des AOP, des fromages fermiers au lait cru, c'est un excellent moyen pour moi de leur dire tout de suite de me placer. Mmh. De leur dire, voilà, je viens, ça coûte presque le double des petits fromages industriels que vous trouvez, d'accord. Mmh. C'est du bas de gamme. Et donc, il faut que je leur dise, mais pourquoi vous avez payé le double, quoi. Ils ne savent pas, puisqu'ils n'ont pas de moyen de comparer. Mmh. Donc, je leur dis, bah voilà, moi, tu vois, là, c'est du machin truc, il y a aucun, il y a juste un nom de boîte, vaguement un nom qui rappelle un nom d'AOP, mais c'est pas vraiment l'AOP. Moi, je viens, je te parle de Sainte-Maure des Touraines, les mecs, ils me disent, waouh, ça a l'air.
C'est ça.
Que le nom, il fait.
Le nom, déjà, il voyage.
Il surcher, je veux dire, il s'est arrivé à peine à le
voilà,
prononcer,
les gens. Voilà, c'est ça, oui, non, j'ai bien compris. Après, quand je te parle de signature, c'est de dire, voilà, aujourd'hui.
Maintenant, je suis crédible. Si je leur amène n'importe quoi et je leur dis qu'il n'y a pas de nom, mais il est bon.
J'ai un réseau, il est bon, et j'ai des experts qui travaillent avec moi. Finalement, tu constitues un réseau d'expertise.
J'aurai la confiance des clients.
Tu auras la confiance des clients.
Bien sûr.
Le problème, c'est qu'il faut que nous, pour pouvoir rentrer dans ta maison, entre nous, il faut qu'on comprenne bien le fonctionnement. Et là, on commence à y voir un peu plus clair, parce que c'était marrant d'échanger. Parce que quand Dan m'a proposé qu'on se rencontre, j'ai dit, mais depuis le temps que j'attends ça, parce que ça fait quand même un petit... Ça fait quand même 10 ans, je pense, qu'on se connaît, Dan.
Ça fait 10 ans.
Ça fait 10 ans que je t'ennuie avec cette histoire de cachérisation, que je voulais comprendre et que... Et m'a dit, mais un jour, je te présenterai quelqu'un. Un jour, j'ai rencontré
Je ne le connaissais pas encore, ça pas assez bien, tu vois.
Un haut responsable.
Bendel,
oui, c'est ça que j'avais rencontré, on avait déjà parlé. Et moi, je suis très respectueux. Moi, je comprends, j'ai pas d'idée arrêtée. Mais je veux juste, ne pas mal faire et ne pas offenser. C'est-à-dire par une méconnaissance, une non-connaissance. Parce que le pire, c'est pas savoir.
C'est compliqué. Enfin, moi, j'apprends toujours. Hein. Évidemment, le monde du fromage que je connaissais pas. Bon, je suis prof de physique chimie de formation, ouais, donc ça aide un peu.
Ouais, facile
voilà.
Hein.
Tout à fait.
Ah, la transparence.
J'apprends. J'ai un bouquin. Je sais plus de qui est l'auteur. Un bouquin sur le fromage de prof de fac. En fait, qui est un très pointu pour un bac plus 4 ou 5 en chimie, qui reprend toutes les étapes de tous les fromages au niveau scientifique, quoi, et qui explique tout. Je suis chimiste, donc je suis censé comprendre. Et il y a du boulot, quoi.
Christelle peut t'expliquer ça très bien. Hein.
Non, je vois, il y a une chimie du fromage, mais ça me fait...
Oui, et puis il y a des savoir-faire qui ne sont jamais écrits.
Et puis qui ne sont pas compris non plus, en fait.
Bah non, on observe parce que la chimie... C'est tellement une évidence, ils ont toujours joué avec la nature, parce que de tout temps, on fabrique du fromage. Mm-hmm. C'est quand même la plus belle conserve de lait. Ouais. C'est quand même magique, hein, quand on voit ce qu'on peut faire juste avec du lait. Tu peux fabriquer 10 fois, tu n'auras jamais le même fromage si c'est pas industriel. Et là, comprendre tout, c'est pas. Et puis justement, demander à un fermier, dire, maintenant, faut que tu m'écrives la musique. Alors c'est presque plus compliqué pour le fermier de dire, mince, il faut que.
Non, voilà, apprendre à parler, à se comprendre les contraintes du fromager. Et c'est vrai que c'est un échange permanent. Alors pour l'instant, j'ai fait que des fromages, entre guillemets, faciles. À transposer en cachère, quoi.
Une question, alors tu me réponds, tu me réponds pas. Ton volume actuel.
C'est facile, sur le 5 hectares, je fais une fois par mois, je fais une double traite de 140-150 bêtes, donc ça fait à peu près 1200 litres, je crois, un truc comme ça, ça fait 150 meules, et on vend pas tout.
100 kilos, quoi, à peu près 100 kilos de fromage.
Et tu vends pas tout.
Ah non, 1200.
Si vous faites une tonne, vous faites à peu près 100 kilos de fromage. 120 kilos selon les rendements.
Ça se fait
une meule fait 1,6 kg. Enfin, ouais, un fromage, un hectare fait 1,6 kg.
Non, alors ça doit être une traite. Vous savez que c'est 150.
Ça dépend de la taille du
tronc. Oui, 150 par 40, ça fait.
Moi, je fais à peu près.
Ça dépend s'il faut 40. Il faut pas forcément.
Non, je fais 140.
C'est du beau
problème. Non, je fais.
C'est
confidentiel. Non, c'est à peu près 130, entre 120 et 140, 150 meules. Je crois à peu près.
Ouais, d'accord. Donc, ça fait 150, on va dire, une fois, ça fait 200, 250 kilos.
Ouais,
tu vois, c'est intéressant. C'est des choses qui nous parlent.
Ouais. Moi, c'est à peu près ce que je fais une fois par mois.
Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, nous, on vend 500 meules de Comté par an. Donc, on sait traiter du volume. Ouais. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je te posais vraiment la question de dire, voilà, si on démarre, est-ce que... Parce que je me suis dit, c'est peut-être aussi interdit, tu sais, de vendre aux autres.
C'est très intéressant et c'est important que ces questions viennent et émergent
naturellement. Alors, tu disais, Dan, tout à l'heure, que moi, je ne pourrais pas vendre du fromage.
Alors, oui.
Alors là, ça me titille cette question. Hein.
Oui, mais
ça
me
dit, j'arriverai pas à la placer à un moment donné. Les hommes, ils sont plus bavards
que les femmes. Ce n'est pas que tu n'as pas le droit de le vendre. Tu peux sans aucun problème le vendre. Je passe sous contrôle de Nathan. Mais en fait, la clientèle qui est ciblée ne viendra pas parce que à côté, il y aura des. Ils vont pas. En fait, il faut qu'on puisse être capable
de. Je les assure de ne pas utiliser les mêmes couteaux. Comme l'abbé, on n'aura pas le choix.
Fromage, il faudra qu'il soit signé.
Voilà, il faudra qu'il soit signé, mais en plus de ça, il pourrait éventuellement intéresser ou prendre des gens s'il était complètement fermé avec un scellé. Mmh. Mais dire qu'il va, il va faire un peu, entre guillemets, tâche dans votre belle, dans votre bel étal. Et surtout, tu vas peut-être sur le. Par hasard, en vendre un par quelqu'un qui l'aura vu, mais tu n'auras pas un volume de gens qui vont venir exprès parce que tu n'es pas reconnu, tu n'as pas le label d'une boutique cachère. C'est comme si tu mets un truc pas bio dans un endroit où ils font tout sauf bio.
Alors, j'ai une autre question.
Donc, les gens, la clientèle aujourd'hui, l'immense majorité à 95% de l'alimentation cachère qui doit être estampillée cachère, d'accord ? Je ne parle pas des poivrons verts, hein, il n'y a pas besoin que ce soit cachère. Je parle tout ce qui est cachère. En France, aujourd'hui, malheureusement, il y a 95% c'est vendu dans des épiceries qui ne connaissent rien à rien. D'accord ? Ils vendent des codes barres. Ils vendent des codes barres, c'est tout. Ils vendent des chiffres, des prix et de la marge.
Bon, nous venons d'assister, et vous venez d'entendre, chers auditrices et auditeurs, à une rencontre qu'on pourrait qualifier de sommet. Ça fait, comme tu le disais, cher Cyril Leroux, une dizaine d'années que tu me disais « Mais quand est-ce que je vais enfin pouvoir rencontrer des gens pour faire du cachère ?» Je suis très heureux de faire cette présentation entre Nathan Grandjean, Christelle Leroux, meilleur ouvrier de France, Cyril Leroux, meilleur ouvrier de France à Strasbourg. Et j'en profite pour officiellement aussi, encore une fois, féliciter Christelle Leroux pour son titre qui date maintenant de 2019. Nous sommes déjà en 2020. Ça fait déjà un an, mais c'est absolument incroyable.
Dans 5 jours, ça fait un an.
5 jours, ça fait un an. Et donc, je crois que c'est la seule boutique de France. C'est d'ailleurs France, évidemment, où le couple est meilleur ouvrier de France avec madame et monsieur, avec 10 ans d'intervalle, quasiment.
12 ans
d'intervalle. Enfin, au bout d'un moment, on se rend compte plus.
Moi, je suis la fleur fraîche, voilà.
La fleur toute fraîche, la fine fleur.
C'est l'osorati des styles.
L'osorati des meilleurs ouvriers de France. Et on est dans le.
Je ne sais pas comment on prend. Ma femme me disait ça.
Ouais, écoute.
30 ans de mariage, je peux.
30 ans de mariage cette année, je pense que j'arrive à.
Finalement, on s'affine. En fait, je crois que c'est ça le truc. On est à la boutique de la rue des Orfèvres, dans la Maison Leroux. Pourquoi c'est la Maison Leroux d'ailleurs ?
Parce que c'est notre nom.
Mais au-delà de ça, vous avez fait une fois une explication que j'ai trouvée, que j'aimais beaucoup. Ça s'appelle la Maison Leroux parce que dans une maison, il y a des fondations.
Exactement.
Et c'est les fondations qui sont
T'as de la mémoire.
Mais alors,
t'as de la mémoire.
Ce sont les fondations qui drive et qui drainent et qui continuent en fait.
On est une grande famille.
On est une grande famille, des amateurs de fromage qui est en train de s'agrandir avec.
Avec
des fromages de famille et des fromages certainement signature cachère à découvrir très bientôt.
L'ouverture des esprits, faut que les esprits se rencontrent. Il faut que les esprits soient ouverts.
Au bon moment.
Au bon moment, exactement. Et après, il faut laisser du temps au temps. Et ça, c'est l'art de l'affinage, ça, c'est notre secret.
Eh bien, chers auditeurs et auditrices, vous avez compris, ça sera à retrouver très très bientôt sur Internet, sur Radio Judaïca, peut-être même chez les Leroux, en tout cas avec les Leroux, ça c'est une garantie. Et Nathan Grandjean aussi, un grand merci de votre accueil.
Merci,
on vous souhaite
bien sûr
bon succès, bon fromage.
Belle rencontre.
Et que des bonnes choses.
Merci.